Deutsche Welle Allemagne Magazine.
Catastrophe, catastrophe. Vous avez regardé le match de foot Allemagne-Pologne samedi soir. L'Allemagne, championne du monde de football, a perdu 2-0 contre la Pologne. C'était dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2016. Catastrophe, catastrophe, vous pensiez que l'Allemagne avait la pêche économiquement et que ça allait durer. Désolé de vous décevoir, jeudi dernier, les instituts allemands d'analyse économique ont sorti leur rapport d'automne. La croissance va être moins forte que prévu cette année et l'an prochain aussi, tant qu'à faire. Catastrophe, catastrophe, un malheur ne venant jamais seul, même Angela Merkel s'y est mise. Les prévisions économiques en général se sont quelque peu assombries, a déclaré la chancelière. Alors si on ne peut plus compter ni sur Engie pour redresser le moral des ménages, ni sur la Mannschaft, mais où va-t-on, se demande-t-on ? Allemagne Magazine essaie cette semaine de répondre à cette question. Et en seconde partie, reportage à Berlin, un plongeon 25 ans en arrière, juste avant la chute du mur de Berlin. Au micro, c'est Constance Wenkötze. Guten Tag, bonjour à tous. Les prévisions économiques, c'est un peu comme la météo. On vous annonce du beau temps et vous vous retrouvez en t-shirt sous la pluie. Au lieu des 1,8% de croissance prévue cette année, ce sera 1,3% finalement. Et pour l'an prochain, ce sera du 1,2% au lieu des 2% annoncés. Alors comment faire repartir le moteur? D'où viennent ces contre-performances? C'est les questions que nous avons posées à Gabriel Colletis. Il est professeur de sciences économiques à l'Université de Toulouse 1 en France et membre du Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne.
La principale raison est relativement simple, hein, c'est la diminution probable des exportations de l'Allemagne. Or, la croissance économique allemande est tirée depuis longtemps maintenant par les seules exportations. Donc, très logiquement, lorsque les exportations allemandes stagnent, voire reculent, ceci pèse sur toute la conjoncture économique et notamment industrielle de l'Allemagne. La mauvaise conjoncture internationale, aussi bien de la zone euro que d'autres parties du monde, explique en partie les difficultés de l'Allemagne à exporter. Ce qui est un phénomène relativement nouveau, c'est que les entreprises allemandes subissent en quelque sorte un redéploiement international de leurs activités et par conséquent, leur production en Allemagne même, production qui était jusqu'alors exportée, va s'inscrire en diminution dans les prochaines années.
Vous avez employé le mot « subir ». Effectivement, on peut se dire, est-ce que l'Allemagne a une influence quelconque sur la conjoncture mondiale ou sur celle de la zone euro ? Est-ce que le gouvernement peut faire concrètement quelque chose, doit faire quelque chose et quoi ?
Alors, je crois que la première réponse, c'est bien sûr tenter de sortir de l'atonie de la demande. Je pense aussi bien à la consommation des ménages, mais je pense également à la demande publique, et ici plus précisément je pense aux investissements publics qui ces dernières années ont très faiblement progressé en Allemagne, voire même ont reculé. Donc la question que posait M. Schäuble l'autre jour, qui est mais quels seraient donc les bons investissements à réaliser, trouve, il me semble, une réponse relativement aisée.
Ça tombe bien que vous parliez de M. Schäuble, donc, qui est le ministre allemand des Finances, qui, la semaine dernière aussi, a de nouveau dit haut et fort que ce qui lui importait avant tout, c'était cette discipline budgétaire et l'assainissement des finances publiques. Est-ce que le gouvernement allemand, actuellement, pense peut-être plus à des résultats positif politiquement, mais sans se préoccuper vraiment de l'avenir économique sur le long terme, disons.
En effet, M. Schäuble a raison de penser à l'équilibre budgétaire. Néanmoins, pour qu'un État ne creuse pas ses déficits, n'accroisse pas sa dette, il y a non pas deux, mais trois moyens. Et les deux moyens les plus habituellement cités sont bien sûr la réduction de la dépense publique et l'augmentation de la pression fiscale. Et le troisième moyen, qui est curieusement très souvent oublié, c'est tout simplement une croissance économique beaucoup plus forte. Sans accroître la pression fiscale, les recettes fiscales augmentent, tout simplement parce que les recettes fiscales sont liées à l'activité économique et aux revenus que reçoivent les ménages et les entreprises.
On se rapproche des 25 ans de la chute du mur de Berlin. Quelle est la situation actuelle dans les nouveaux Länder, c'est-à-dire l'ex-Allemagne de l'Est? Est-ce que ça a aussi une influence sur ces mauvaises nouvelles là, qui sont tombées?
Alors, contrairement à ce que l'on dit très souvent, eh bien, le processus d'unification de l'Allemagne est loin d'être arrivé à son terme. Le déséquilibre entre les anciens Länder de l'Ouest et les nouveaux Länder de l'Est, loin de se résorber, eh bien, ce déséquilibre ne se contracte pas. Ce qui veut dire que pour maintenir le niveau de consommation dans la partie Est de l'Allemagne, la partie Ouest de l'Allemagne devra continuer d'effectuer des transferts très, très importants, ce qui risque de mettre à l'épreuve la solidarité entre les Länder allemands et donc de compromettre le sens même de la réunification.
Gabriel Colettis, professeur de sciences économiques à Toulouse, au micro de la Deutsche Welle. Et Monsieur Colettis qui évoquait il y a un instant la réunification, un mot qui va revenir souvent ces prochaines semaines, puisque le 9 novembre prochain, cela fera 25 ans que le mur de Berlin est tombé. La réunification interviendra un peu plus tard, le 3 octobre 1990. De tout cela et de comment on en est arrivé là, on en parle tout de suite. Le mur de Berlin a séparé l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est pendant 28 ans. Il est tombé le 9 novembre à la suite de ce qu'on a appelé la Révolution d'automne, des marches pacifiques qui ont réuni à partir du mois d'octobre 1989 à Leipzig, Dresde et Berlin des centaines de milliers de personnes. Toutes protestaient contre le régime de la République démocratique allemande et contre les activités de la Stasi, sa police secrète. 25 ans après, 18 associations ont décidé de commémorer ces manifestations qui ont conduit à la réunification. À Berlin, notamment, le musée de la RDA ainsi que des témoins de l'époque ont appelé à une marche le 7 octobre dernier. Notre correspondante Audrey Parmentier y était.
Ce n'est pas la peine de klaxonner puisque la rue nous appartient, c'est ce que vient de déclarer Stéphane Wolle, historien et directeur scientifique du musée de la RDA. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur l'Alexanderplatz, qui était à l'époque la place mythique de Berlin-Est, pour se remémorer les premiers cortèges qui ont eu lieu ici il y a 25 ans. Il s'agissait de lutter contre la SED, le parti communiste de la RDA, et pour réclamer un état de droit, la liberté et la fin des violences. Stéphane Wolle.
Le 7 octobre 1989 se tenait ici la cérémonie officielle des 40 ans de la RDA en présence d'Erich Honecker et de toute son équipe, ainsi que des invités venus du monde entier. Le plus important était Mikhail Gorbatchev. C'est grâce à lui qu'une manifestation de protestation a pu avoir lieu. On ne pouvait pas montrer à l'initiateur de la perestroïka et du glasnost des foules tabassées par la police. La marche a commencé devant l'horloge mondiale. Elle était organisée par de petits groupes de défense des droits des citoyens qui voulaient protester contre les fraudes qui avaient eu lieu lors des dernières élections.
Elle arrive, la révolution pacifique et dans la rue. C'est au rythme de cette chanson que les manifestants avancent dans les rues de Berlin 25 ans après. De nombreux jeunes font partie du cortège, ils sifflent et scandent des slogans. Alphonse a 16 ans, il n'était pas né quand le mur est tombé, mais aujourd'hui, il arbore fièrement une pancarte.
C'est écrit d'un côté « Liberté » et de l'autre « Nous sommes le peuple ». Pour moi, cela signifie qu'il ne doit pas y avoir de frontières au sein d'un même pays.
Stéphane Wolle distribue des flyers.
Nous avons reproduit les tracts qui appelaient à l'époque à la manifestation. Ils avaient été imprimés et distribués de manière illégale, ce qui représentait alors un risque énorme.
Ces tracts, ce sont de petits papiers jaunes sur lesquels on peut lire 7 octobre, 40 ans de RDA, 5 mois de fraude électorale. Evelyn Tsoupke en distribue elle aussi quelques-uns. En 1989, cette fervente opposante au régime a contribué à révéler les fraudes qui avaient eu lieu lors des élections communales du 7 mai 1989.
Nous avons d'abord organisé un mouvement de protestation dans l'église Sainte-Sophie qui a été violemment réprimée, ce qui a renforcé notre grogne. Et nous nous sommes dit, nous ne voulons plus protester dans les églises, nous ne voulons plus discuter, nous voulons aller là où ça fait mal, sur l'Alexanderplatz. Et nous avons lancé l'idée de se réunir pour protester tous les 7 du mois à 17h. Le 7 septembre, l'État a montré son vrai visage. Nous étions quelques-uns à s'être réunis ici sur la place et nous avons été violemment tabassés. La police a cassé le bras d'un des manifestants. Nous avons compris que l'État était prêt à réprimer de manière brutale toute forme de protestation.
Ein anderer Zeugenbericht, ebenfalls hier von der Mollstraße.
Sur la Mollstrasse, il y a un gros camion gris qui s'est mis en travers de la route, en travers de la manifestation, pour symboliser la répression de l'époque. Et là, un des témoins raconte ce qui s'est passé, que les manifestants ont été brutalement tabassés par les policiers. C'est ce que confirme Evelyn Tsoupke.
On passe dans les rues du quartier de Prenzlauer Berg et tout est très joli aujourd'hui. Les maisons ont été restaurées, il n'y a plus de ruines. Je me rappelle de la peur et de la violence qui régnaient dans ces mêmes rues les 7 et 8 octobre. J'étais dans l'église Gethsemane et j'assurais la permanence téléphonique. Beaucoup de gens étaient choqués et surpris de la violence de l'État. Ils se sont réfugiés dans l'église, ont pris part aux veillées. Les parents cherchaient leurs enfants, les enfants leurs parents. Tout le monde cherchait des amis, les membres de la famille. Et ils pleuraient, ils étaient désespérés face à toute cette violence.
Cette nuit-là, entre le 7 et le 8 octobre 1989, 500 personnes sont arrêtées à Berlin-Est.
Et le 9 octobre 1989 a lieu à Leipzig la manifestation décisive contre le régime de la RDA. 70 000 personnes se réunissent et scandent « Nous sommes le peuple », un tournant qui entraînera la chute du mur un mois plus tard. Et nous en reparlerons bien sûr dans nos prochaines émissions. Si vous souhaitez réécouter celle-ci, direction notre médiathèque sur le dw.de/français. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss.